Hello, I'm Bill Gates.
And we are calling it iPhone.
Attends, je veux causer de science avec les intellos.
Salut à tous, je m'appelle Jérôme Colombin.
Salut à tous, je m'appelle... comment déjà ? Ah bah oui, bien sûr, François Sorel. Comment ça va Jérôme ?
Salut François, ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François, le podcast normalement mensuel.
Oui !
Mais ce n'est que théorique.
Mais vous savez quoi ? On a attendu le printemps pour vous retrouver, parce que ça y est... Dans la tour, on va dire, d'ivoire du studio de Jérôme Colombin.
Oh, c'est bien dit.
Nous pouvons voir maintenant le ciel bleu. Et ça y est, petit à petit, les petits oiseaux chantent. Ça y est, nous rentrons dans le printemps. Et pour célébrer ça, il fallait qu'on revienne avec chez Jérôme et François.
Excusez-le, je sens que ça va être dur. Là, il est d'une humeur bucolique parce qu'il part bientôt en vacances.
Non, mais c'est même...
Donc, il s'y voit déjà.
Non, parce qu'on a bien mangé. C'était très sympa.
On a bien mangé, absolument.
Voilà. Tout vous raconter. Et on est très heureux de vous retrouver, ça c'est clair.
Chez Jérôme et François, le podcast qui débriefe nos vies de journalistes tech.
C'est vrai.
On vous raconte un petit peu ce qu'on a dans la tête et qu'on ne livre pas toujours au micro, sur nos différentes antennes.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Alors on va parler de quoi, François, cette semaine ?
Tu sais quoi ? Je me suis dit que parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, de tous les sujets qui sont... on va dire, dans ce thème...
Ouais, j'aurais pas pensé.
Ça valait le coup d'en parler. Donc, on va évoquer tout ça. Mais on va parler de quoi d'autre, Jérôme Colombin ?
Moi, je te propose qu'on revienne sur un autre gros sujet du moment. C'est l'affaire TikTok, on va dire.
Hein. Oui.
Des deux côtés de l'Atlantique, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser, comme on dit au Québec.
Je vois pas pourquoi tu dis au Québec. Attention teasing. On est très fort, je sais.
Voilà. Troisième sujet qu'on voudrait aborder avec vous, c'est le métavers. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé.
Oui. Ce podcast va faire 3 heures. C'est ça.
Voilà, exactement.
D'accord. Ok.
Pour dire que c'est fini, en gros.
Non. Je suis pas d'accord. Pas à me chauffer là-dessus.
Ok, c'est intéressant.
Parce que je ne suis pas d'accord.
Très bien.
Et puis on aura nos coups de cœur aussi, Jérôme.
On aura nos coups de cœur également. Mais surtout, et tu l'as évoqué, nous avons une surprise cette semaine, dans ce mois-ci, dans Chez Jérôme et François. Très exceptionnellement, nous avons un invité qu'on vous présente tout de suite.
Et alors attention, quand on dit invité, ça pourrait être, tu vois, un petit patron de start-up, un gars qui va nous vendre son truc et tout. Mais non, nous avons l'invité avec un grand L apostrophe.
Bonjour Bruno Guglielminetti.
Jérôme, François, bonjour de Montréal.
Salut de Montréal, on est ravis de t'accueillir.
Bruno.
Bruno, est-ce qu'il faut présenter Bruno ? On va le faire quand même, par respect pour les gens qui nous écoutent.
Mais pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, vous connaissez Bruno, parce que c'est vrai qu'il fait partie un peu de notre famille.
Exactement, hein. C'est pour ça qu'on l'invite chez Jérôme et François.
Exactement.
Podcast dans lequel d'habitude on n'invite personne.
Voilà, c'est vrai, non, mais d'habitude, on est vraiment dégueulasse, quoi. On n'invite personne dans chez Jérôme et François. Mais là, on s'est dit quand même, Bruno, il fait partie de la famille, ça nous fait plaisir. Non, c'est vrai qu'on a l'habitude de discuter lors de grands moments tech. Ça peut être Vivatech, ça peut être le CES de Las Vegas. De temps en temps, tu nous fais des petits coucous dans nos émissions respectives, à Jérôme et à moi, dans Tech & Co sur BFM Business. Et voilà.
Absolument.
C'est vrai qu'on s'aime bien.
Voilà. Et comme on fait un peu on fait le même métier depuis de longues années. Hein,
vous, beaucoup plus longtemps que moi. Hein.
Bon, ça suffit.
N'importe quoi, ça commence bien.
Ah là là.
Non, mais d'ailleurs, la dernière édition, vous disiez qu'à vous deux, vous faisiez 150. Et je vous confirme qu'à nous trois, on fait au-delà de 150.
Alors, ah oui, largement.
Mais tu sais quoi, Jérôme et moi, on fait plus de 105. Hein.
Bon, on peut passer à autre chose, c'est pas le sujet
c'est
du
ça.
Jour.
Alors, c'est ça, on vient on de passer
on va pas rentrer dans les détails, non. Mais ça fait un peu plus. Hein.
C'est pas le sujet.
On est plus à 110, si tu vois ce que je veux dire.
Bon, Bruno, animateur de Mon Carnet à Montréal et qui baigne dans la tech depuis 2000 ans, comme nous. Et vraiment, on est ravis donc de t'accueillir pour passer ensemble en revue tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Les amis, je vous propose qu'on parle du sujet du moment. Pourquoi tu te caches, François Sorel ?
Je sais pas, parce que je suis d'humeur facétieuse aujourd'hui. Non, ouais. Mais bien sûr, il faut commencer par l'IA.
Il a bu, je crois.
Pas du tout, c'est pas mon style. On commence par l'intelligence artificielle, tu nous mets un jingle ou on y va direct là ?
Non,
mais dis-moi.
Non, on y est. Le jingle, ce sera plus tard.
Ça sera pour plus tard, parce que Jérôme Colombin est journaliste DJ.
Oui, d'accord, absolument.
Et quand c'est des virgules, ça va. Quand c'est des disques, c'est un peu différent.
Plus difficile.
Jérôme a trouvé le bouton qu'il ne fallait pas, les amis. On va souffrir. Bruno, je suis désolé,
ça,
excuse-nous.
C'est la trappe. Hein,
ouais, c'est ça. Oui, on va parler d'intelligence artificielle parce que c'est vraiment le sujet qui excite tout le monde en ce moment.
Ouais.
Alors, on en parle beaucoup sur nos médias respectifs. Hein, Jérôme, toi, dans Monde Numérique, moi, dans Tech & Co. J'imagine, Bruno, que dans tes podcasts, c'est vraiment le sujet numéro un. Et on trouvait intéressant de faire un peu le point tous les trois sur nos points de vue sur ChatGPT, etc.
Voilà, je pense que pour camper le décor même, je pense qu'on pourrait donner la parole à Bruno pour qu'il nous raconte une expérience qu'il a menée tout récemment grâce à l'intelligence artificielle. Un truc un peu fou, hein, Bruno?
Ouais, c'est presque un rêve devenu réalité parce qu'il n'y a pas énormément de journalistes qui sont encore au travail, qui ont eu la chance, en tout cas dans le monde francophone, de faire une entrevue avec Steve Jobs, en partie en français et l'autre en anglais. Et la semaine dernière, j'ai eu cette chance-là, grâce à l'intelligence artificielle.
Ouais, parce que je crois qu'il est fou, François.
Oui, je crois Bruno,
qu'il est fou. On va le laisser. Oui. Au revoir, Bruno.
Au revoir. C'est ça. Alors,
tu abuses trop de sirop d'érable, hein, Bruno. Il faut arrêter. Là, c'est pas
comme
bon.
C'est la saison, alors j'en profite. Mais sérieusement, et là, ce que je vais vous raconter, là, ça ressemble. Si vous aviez regardé la série Black Mirror, deuxième saison, premier épisode, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un aux États-Unis, John Mayer, qui a créé une application. Il y a déjà une quarantaine d'applications derrière lui, mais il a créé une application qui lui permettait de poursuivre une conversation avec son père qui était décédé. Ils avaient des choses à régler. Il a décidé, je vais le faire virtuellement. Mais puisqu'il avait déjà cette application-là, il s'est dit, et si j'ajoutais ça à une personnalité qui était décédée, et lui, geek de profession et entrepreneur par la suite, il a décidé de faire revivre Steve Jobs, tout simplement, en branchant son application, qui est une synthèse de voix, de le brancher à ChatGPT et donc de ramasser tout ce qui avait été dit, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait donné comme entrevue, tout ce qu'il avait fait comme discours, et donc de nourrir la bête pour finalement faire un méga Steve Jobs virtuel auquel, si on a la chance et si on a la clé, on pouvait, la semaine dernière, s'adresser et lui poser des questions, toutes langues confondues, en français, en anglais, en espagnol, et il nous répondait, évidemment, basé sur ce qu'il a déjà répondu dans son histoire, sauf que moi, j'allais pousser un petit peu plus loin. Je l'ai ramené justement avec un des sujets dont on parle aujourd'hui, l'histoire de TikTok. Et je lui demandais à savoir qu'est-ce qu'il pensait de TikTok et de l'installation d'applications comme ça sur les iPhones. Et c'était intéressant d'entendre sa réponse, évidemment. La réponse de la machine, pas sa réponse à lui, mais avec cette même voix qu'on lui connaît et qui dit, en tant qu'il il est toujours pour l'amélioration des services, de l'offre, mais de l'autre côté, il était mal à l'aise avec le fait de mettre en danger la vie privée des utilisateurs. Et il nomme TikTok, et c'est fascinant d'entendre simplement ce nom-là d'application.
Dans la bouche de Steve Jobs.
Steve Jobs.
Mais écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'on l'écoute.
Ah, tiens, regarde, je vous fais entendre rapidement deux extraits. Le premier extrait,
c'est lui qui
me confirme qu'il peut me parler en français. On l'écoute.
Bonjour Bruno, oui, je parle français. Comment puis-je vous aider?
Alors, le deuxième extrait, c'est justement ça à voir avec sa fameuse réponse concernant TikTok.
Même en français.
As an innovator and someone who firmly believed in the importance of protecting personal privacy, I would be cautious about allowing an app on the iPhone that could potentially spy on its users. While I understand the appeal of TikTok and other popular social media platforms, it is important to prioritize the privacy and security of individuals' data.
Voilà. Alors, c'est quand même impressionnant.
Ouais,
parce
c'est
que
impressionnant.
C'est vraiment la même voix
c'est
que
le phrasé,
Steve Jobs.
C'est le phrasé de Steve Jobs.
Et d'une manière générale, ce qu'il racontait était pertinent, bluffant.
Toutes les questions. Jamais je l'ai senti errer dans le décor, mais évidemment, quand on parle à Steve Jobs, normalement, en tout cas, moi, ça a été mon réflexe, ça a été de lui poser des questions par rapport à la technologie, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à où est rendu Apple. Alors, probablement que j'étais pas le premier à lui poser ces questions-là, mais de l'entendre actualiser cette information-là, de voir comment Apple était passé à travers la pandémie. Et il y a quelque chose de thérapeutique dans l'expérience. Hein. C'est presque rassurant d'entendre cette voix-là qui a nourri l'innovation au début des années 2000, de venir nous voir en 2023 et
Bruno,
dire...
Est-ce que c'est
une question de François Sorel.
Est-ce que c'est pas aussi quand même baigné dans l'illusion? Et baigner dans l'illusion, c'est quand même un peu dangereux, quoi. C'est un tour de passe-passe, c'est de la magie, enfin de la magie. On sait qu'il y a un truc derrière, et les trucs, là, c'est ChatGPT. C'est pas gênant le fait de parfois se dire « Oh là là, on a l'impression d'entendre Steve Jobs ». Est-ce qu'on arrive toujours à avoir le recul de se dire bah, « Finalement, c'est de l'illusion ».
Ben, c'est sûr que éthiquement, c'est important. Bon, moi, je l'ai utilisé dans mon carnet et je l'ai utilisé à Radio-Canada où je tiens toujours chronique, là, à l'émission du samedi, là, en matinée. Et j'ai bien mis en garde les auditeurs en disant ça, c'est une machine qui reprend la voix de Steve Jobs, ouais, basée sur des écrits. Mais sauf que de l'entendre, et puis je suis persuadé que ça fait le coup aux gens qui nous écoutent, de réentendre de ces discours. À un moment donné, je lui pose la question, de tous les discours que vous avez faits, lequel vous marque le plus? Et il me revient sur le fameux discours qu'il avait offert au finissant.
Stanford Statement.
Mais de l'entendre, je vous le dis, là, j'ai la chair de poule. De l'entendre me ramener ça en disant « You know Bruno, nanana. »
C'est bluffant. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a l'aspect synthèse vocale, donc il plagie la voix de Steve Jobs, ça c'est extraordinaire.
Il reproduit
tout à fait.
À la perfection, ouais, on ne sent pas de manipulation
pas du tout
vocale.
Et c'est ça qui est surprenant. Ouais.
Mais derrière, il y a, est-ce que tu as expliqué, la connaissance. Il brasse l'acquis de Steve, l'histoire de Steve Jobs, quoi. Donc c'est Apple, c'est Stanford, c'est tout ça. Et c'est là-dessus qu'il va baser ses réponses. C'est ça
c'est un peu comme quand on utilise ChatGPT, il fait référence à la connaissance universelle à laquelle il a été abreuvé au biberon. Hein. Bon, mais c'est le même principe avec cette intelligence-là qui permet de parler à Steve Jobs, basé sur son catalogue de connaissances qui a été publié et accessible sur Internet.
Ouais. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une parfaite entrée en matière pour évoquer le truc du moment.
Mais vous vous rendez compte des sujets qu'on évoque?
Mais ouais.
On est dans un truc, c'est incroyable. On n'a plus le recul là parce qu'on a la tête dans le guidon. Mais non, mais juste une seconde. On est en train de parler à une machine qui nous répond en nous apportant l'illusion d'une personne qu'on apprécie beaucoup, parce que nous, c'est vrai que Steve Jobs, c'est un peu notre gourou, quoi, en quelque sorte, hein, faut pas se voiler la face. C'est incroyable. Est-ce qu'on aurait pu avoir cette discussion il y a un an?
Elle était beaucoup plus théorique. On l'évoquait.
Moi, je pense qu'on l'avait vu.
Si, il y avait des trucs au cinéma. Il y avait
pas aussi bien. Enfin,
le film Her au cinéma, il y avait des choses.
Mais je pense que la perception n'aurait pas été la même.
C'était de la fiction.
Et ça revient à la discussion que vous aviez eue le mois dernier, pardon, quand vous disiez l'impact de l'intelligence artificielle. Et si on en parle autant aujourd'hui, c'est qu'avec un ChatGPT, par exemple, on a accès à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on en parle tant. Parce que monsieur, madame, tout le monde ont accès à ça. Alors, d'avoir accès, moi, simplement, directement à une application qui me permet de discuter virtuellement avec un faux Steve Jobs, mais d'avoir l'impression de lui parler, il y a un moment là. Il y a quelque chose, mais c'est sûr que le journaliste en moi, je savais que je parlais avec une machine, mais il y a quand même quelque chose.
Bruno et Jérôme, est-ce que ça ne va pas nous abîmer tout ça? Parce que là, c'est Steve Jobs, mais demain, ça peut être nos proches décédés qui on va pouvoir discuter. Et là, on est dans Black Mirror, hein, Bruno, là, carrément.
Ah, tout à fait.
On y est. Je me souviens très bien de cet épisode, moi, qui m'avait énormément marqué. Hein. C'était une jeune femme qui avait perdu son fiancé à l'époque, et donc elle était dans ce truc-là, et puis elle avait même commandé à la fin un robot qui lui ressemblait. Enfin,
oui, tout à fait.
C'était
François, pour les gens qui nous écoutent, c'est Black Mirror saison 2, épisode 1.
Voilà, Black Mirror saison 2, épisode 1 en France et sur Netflix. Je vous le dis, donc allez-y. Mais c'est vrai que on peut pas imaginer l'impact que ça va avoir sur notre esprit, le fait de réécouter des personnes qui nous sont chères et avec qui on va discuter,
mais c'est ça qui est vertigineux, parce que ça trouble tous les sens, c'est contre le sens commun.
Est-ce
en même
que ça
temps
va être
c'est tellement
contre le deuil,
c'est tellement attirant, tellement excitant, on se dit oui, mais pourquoi pas. Alors vous avez vu quand même cette semaine donc cette pétition lancée par un site américain, la Future of Life, et qui a été signé apparemment par Elon Musk, par Tim Cook, etc., pour dire attention, on va trop loin, faut arrêter, faut mettre l'intelligence artificielle sur pause. On en parlait juste avant d'enregistrer ce podcast, François et moi.
Ouais, pendant que moi je mangeais une salade et Jérôme 700 grammes de viande.
Voilà, donc vous inversez la proposition et vous aurez la réalité. Et donc, c'est vrai qu'on était là à se dire, mais est-ce que vraiment là, on va pas trop loin? Qu'est-ce que tu en penses, Bruno, de cette histoire? Est-ce qu'il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause?
Ben ça, c'est intéressant que vous le disiez parce que le dessous de l'histoire, sachez que cette pétition-là, elle est générée en partie à partir de Montréal. Il y a Yoshua Bengio qui est un des... Oui. Qui est un des acolytes du français là, qui est en charge de l'intelligence artificielle chez Facebook.
Yann Lequin.
Exactement, ouais. Merci. J'oublie toujours son nom. Ouais. Ces deux-là font partie du triumvirat qui sont à la base de l'apprentissage machine. Hein. Et donc, en quelque sorte, c'est un peu les pères spirituels, si vous voulez, de ce qu'on connaît maintenant avec le ChatGPT. Si ça existe, si ça fonctionne, c'est parce qu'eux ont déjà fait des travaux il y a longtemps. D'ailleurs,
c'est vrai, tu as raison de le rappeler.
En 2018, ils ont reçu un prix, hein, l'équivalent du prix Nobel en informatique. Donc, c'est pas rien. À l'époque, on savait qu'on avait déjà quelque chose. Cela étant dit, je souligne son nom, là, Yoshua Bengio, parce que la semaine dernière, il a publié un papier. Il est en charge. Il est professeur un peu partout à travers la planète, mais notamment à Montréal. Il est aussi le grand patron scientifique de MILA, qui est un centre d'expertise en intelligence artificielle qui est financé par Facebook, Google, Microsoft, Samsung et compagnie. Mmh. Et donc, la semaine dernière, et je pensais que ça s'arrêterait là, ils ont publié un document avec l'UNESCO en tirant la sonnette d'alarme et en disant « il faut que les gouvernements s'arrêtent et légifèrent dans le domaine », évidemment réfléchir un peu auparavant, ouais. Ce qu'ils font pas toujours, mais d'être conscient du risque. Et là, une semaine plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit cette histoire-là de la lettre qui sort fait partie des trois premiers signataires des 1000. Ben, il y a Yoshua Bengio, je pense qu'il est en deuxième.
Ouais, il y a Elon Musk aussi et Steve Wozniak, je crois.
Oui, qui est troisième aussi, oui.
Oui, oui, il y a plein de personnalités.
Ouais. Et donc, c'est ça. Alors, c'est une question qui se pose beaucoup. Mais moi, je vous rappelle qu'en 2018, si ma mémoire est bonne, ou 2019, il y avait eu l'entente de Montréal par rapport à l'utilisation éthique de l'IA, et ça a toujours été un sujet qu'on ramène constamment sur la table.
En France aussi, hein, c'est des débats qui existaient auparavant, mais qui avaient moins d'épaisseur, hein. Parce qu'on ne s'en rendrait pas compte, là, voilà.
Bon, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde regarde ailleurs, quoi. À part quelques voix qui s'élèvent à droite à gauche, je veux dire, nous, en France, on parle que, en ce moment, c'est les retraites, les violences policières, les trucs comme ça, mais l'IA, c'est totalement sous le radar. C'est anecdotique, ça reste dans le champ de, vous savez quoi, l'informatique a encore progressé. C'est incroyable, mais on n'est pas... Alors si, il y a eu quelques émissions quand même, des trucs qui creusent un peu le sujet pour essayer d'appréhender les risques. Les premiers risques qu'on voit, c'est par rapport au travail. Ça va être une déstructuration du travail dans beaucoup de domaines.
C'est drôle qu'on n'évoque pas ce sujet-là en plein débat des retraites, parce que
s'il y a
bien une technologie qui va bouleverser notre manière de travailler là, et sans doute l'avenir de notre travail, c'est bien ChatGPT et cette intelligence artificielle.
Cette semaine, tu parlais justement que l'IA générative allait bousculer 80% des emplois qui existent aujourd'hui.
Oui, il y avait une étude là.
Quand vous comparez ça à la discussion qui a à voir avec votre changement d'âge de retraite, là, je pense qu'avant de savoir à quel âge tu vas prendre ta retraite, ça serait bien de savoir si tu vas encore avoir un job.
Bah exactement, bien sûr.
Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude de Goldman Sachs qui est sortie hier. Ouais. 300 millions.
300 millions d'emplois.
D'emplois qui pourraient disparaître. À cause de ChatGPT.
Il y a des trucs, on commence vraiment à toucher du doigt.
Mais en revanche, on gagnera en productivité pour tous ceux qui travaillent.
Mais forcément, on va gagner en productivité. Mais ça veut dire quoi, gagner en productivité? Ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnes dans les entreprises.
300 millions.
Oui, exactement. Et ça veut dire même que ça dévalorise le travail d'une certaine manière. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on appelle les cols blancs, quoi, les employés. C'est pas les plombiers, les infirmières, etc., qui vont être impactés. Hein.
Quand même, ces gens-là ont déjà eu leur vague, hein, parce que l'industrie 4.0, là, quand l'intelligence artificielle est arrivée sur les lignes de montage, c'est eux qui ont été bousculés Mais là, maintenant, on va peut-être en parler plus, et même nous, on en parle plus, parce que là, ça commence à toucher les cols blancs. Ouais. Mais pour les gens qui vont être capables de les utiliser, bonjour, hein, moi, à la blague cette semaine, Jérôme, je t'avais envoyé une photo de ma classe ici à l'Université du Québec à Montréal, où je permets à mes étudiants, pour un examen, je leur permettais d'utiliser ChatGPT. Mais je les ai mis en garde. J'ai dit, faites attention au type de réponse que vous allez recevoir. Parce que si vous la reprenez sans la vérifier et qu'il vous amène dans le champ, ben, le zéro, ça sera pour vous, pas pour ChatGPT.
Ah ben, ChatGPT n'est pas un outil fiable pour la connaissance. C'est sûr, il brasse des idées, il brasse des phrases, etc. Mais on ne peut absolument pas lui faire confiance. Mais
il y a un truc
que c'est un super outil.
Il y a un truc qui est intéressant aussi. Il y a un nouveau métier, en tout cas, que ça va créer.
Prompteur.
Et voilà.
Et ouais.
C'est ça. C'est-à-dire arriver à poser les bonnes questions à ChatGPT avec les bons mots de vocabulaire pour qu'on gagne du temps pour avoir les bonnes réponses.
Ouais, c'est prompt engineer même.
Prompt engineer.
François, est-ce que tu as l'impression que les journalistes ont de l'avenir là-dedans, justement pour poser des bonnes questions?
Mais alors, c'est un sujet qu'on évoque avec Jérôme, parce que souvent, tu vois, on se pose la question, que va devenir notre métier? Moi, je pense que... Toute l'actualité factuelle, c'est-à-dire, moi je parle là dans mon métier qui est la radio, un flash info dans un an, peut-être même avant,
c'est mort.
Ça pourrait être fait par l'intelligence artificielle.
Absolument.
Tu vois, tu pourras prendre la voix de Bruno, de Jérôme ou la mienne. Tu connecteras ça à l'AFP ou je sais pas quoi, etc. Il fera très bien 3 minutes et puis ce sera 3 minutes, tu vois, ça sera pas un 2,50.
Ouais, ou moins aujourd'hui, 3,10. Ça se fait déjà avec Juice, avec l'application de RFI.
Oui, mais c'est anecdotique et c'est pas sur des médias, on va dire, mainstream. Là,
sais, mais la mécanique, elle est là, elle fonctionne.
Ouais, mais Juice agrège des contenus, c'est de la curation, mais c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de fabrication.
Vous allez mettre Juice, de la radio.
Non, mais Juice lit les articles. C'est vrai que Jérôme a raison. Juice lit des articles. Alors que là, ce qu'on imagine demain, c'est que tu dis à ChatGPT, voilà, récupère-moi les 5 titres d'actualité d'aujourd'hui, tel jour, à telle heure. Il va ressortir ça. Il fera.
Alors, je vous amène aux États-Unis, à Springfield, où il existe Chat Radio.
Oui,
depuis quelques mois. Et ça, il va chercher les nouvelles géolocalisées en fonction de la station.
Il va sur
Internet chercher les dernières nouvelles, et plus les rumeurs sur Internet, et te les amène.
Ouais, mais ça m'a pas trop convaincu, ce truc-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de musique.
Parce que c'est en anglais. Parce que si tu l'entendais en français avec la justesse de langage, là, avec les bonnes intonations, je pense que tu trouverais ça assez surprenant.
Alors, mais pour terminer, pour répondre à ta question, donc, je pense que d'un côté, tu as le factuel. Et là, ChatGPT va complètement révolutionner tout.
Oui, c'est le fil info
Info,
etc.
Voilà, il y a une nouvelle dépêche qui sort parce que Samsung sort un nouveau téléphone. Mmh. On n'a plus besoin de quiconque pour écrire tout ça et parfaitement. En plus, optimiser SEO et tout le tralala, c'est ça aussi le truc.
Ouais.
Mais après, je pense qu'il y a une autre partie de notre métier qui est où on fait plus appel, on va dire, à du jus de crâne, entre guillemets, c'est-à-dire que on va être dans un dialogue avec une vraie analyse en temps réel, mais peut-être aussi parfois des sentiments, de la, comment dirais-je, et puis aussi des avis divergents. Et là, à mon avis, c'est un peu plus compliqué.
Je pense que dans l'interview, le reportage et même le choix des sujets, les inputs un peu, enfin
le choix du sujet,
oui, tu peux te faire aider par
non, ouais, des sujets, je pense que tu peux même te sortir les bons sujets qui potentiellement feront plus d'audience que ceux que tu pourrais choisir.
C'est pas faux. Oui, mais enfin, l'audience n'est pas la valeur ultime pour
les
choix des sujets.
Pour toi, mais pour 90% des médias, c'est
l'audience. Ça, là, on rentre dans un autre débat. C'est
on est d'accord.
Parce que, voilà, hein, est-ce que l'info doit être drivée uniquement par l'audience? Ça, c'est un vaste débat.
C'est un autre débat,
c'est
bien
un
sûr.
Autre débat. Ouais. Mais alors ça, c'est on va dire, bon, il y a les questionnements qu'on peut avoir par rapport à des métiers, en l'occurrence les nôtres, etc. Mais au-delà de ça, la fameuse pétition, j'y reviens, elle met quand même en évidence et elle attire le regard sur des risques qui nous paraissent beaucoup plus théoriques, qui sont beaucoup plus difficiles à formuler, à exprimer, etc., mais qui sont vertigineux, qui sont que vous avez OpenAI qui a fait ChatGPT, qui est en train de fabriquer, de vouloir fabriquer une IA généraliste. Donc, des tas de ChatGPT spécialisés. Et ensuite, on arrive à agréger tout ça. Et à l'arrivée, ça vous fait... J'aime pas dire ça parce que ça fait naïf, ça fait presque dessin animé, mais un cerveau plus intelligent que le cerveau humain, quoi. Mais parce que c'est ça le vrai risque aujourd'hui.
La pétition, elle est exactement là-dessus.
Elle est là-dessus. Mais le risque, il est là. Aujourd'hui,
pour moi, c'est pas de l'intelligence.
Attends. On va en discuter. C'est pas de la conscience, mais c'est pas non plus de l'intelligence, mais ça le simule tellement bien que ça revient à faire de l'intelligence. Et si on en vient à confondre de l'humain et de la machine parce qu'elle est tellement intelligente que, voilà, on est à ChatGPT 4, il y a ChatGPT 5 qui est déjà dans les tuyaux, et il paraît que chez OpenAI, en interne, ils se disent que ce qui sera amusant, c'est que ChatGPT 6 va être programmé par ChatGPT 5. Enfin, GPT-6 sera fabriqué par GPT-5. C'est de la folie. Franchement, on court à notre perte. Et on en parlait à midi avec François. Ce que je lui disais, c'est que tu peux pas arriver à faire des scénarios rationnels pour expliquer si c'est dangereux ou pas. Je pense qu'il faut se mettre à un autre niveau. Il faut se placer à un niveau quasiment philosophique pour se dire, attendez les mecs, c'est tout simple. Si l'être humain fabrique un cerveau qui va être plus rapide, plus puissant que le sien, eh bien, ça va le tuer, c'est tout. C'est Cro-Magnon contre Homo sapiens, c'est Homo sapiens contre Cro-Magnon, quoi, en fait.
Oui, alors moi, je suis d'un naturel optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je me dis que l'être humain a une capacité d'adaptation et une intelligence éminemment supérieure qui fera que on s'en sortira toujours et on arrivera toujours à maîtriser la bête en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y aura, je pense, une période de transition où là ça va être le bordel. Ça va être le bordel parce que il n'y aura pas de règles, il y aura des abus forcément, il y aura des choses merveilleuses qu'on va vivre, des choses terribles aussi. Et puis, petit à petit, comme toute technologie, après, on s'adaptera. On s'adapte depuis des dizaines de milliers d'années. Et voilà, je pense pas qu'il faille vraiment être pessimiste, parce que d'un autre côté, ça va nous permettre de faire des choses incroyables. Hein, mais il y aura une période de pagaille.
Bah, c'est écoute, sûr. Moi, pour la première fois de ma vie de geek, je flippe. Je sais pas ce que tu en penses, Bruno.
Bah, je pense, étant d'un tempérament qui est beaucoup plus... Sorellois que Colombien. Sérieusement, je pense plus du côté de François. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'accrochage. C'est sûr qu'il va y avoir des victimes là-dedans. Et ça, c'est certain. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un de mes lecteurs sur les réseaux sociaux qui me faisait la remarque en disant, vous, les journalistes, là, vous semblez être les premiers qui menez la cabale pour faire la promotion de l'IA dans les médias et vous devriez faire attention parce que, et puis moi, je leur dis, et je suis le premier à aller en onde et je suis le premier à en parler sur mon podcast en disant, mais attention, là, mettez pas vos lunettes toutes roses, là, parce que c'est pas que ça. Dans certains cas, ça va égratigner, dans certains cas, ça va arracher. Mais c'est sûr que l'adaptation va être difficile parce que on se retrouve avec des outils qui sont très puissants.
Ouais.
Et c'est quand pensez simplement, et c'est ça que la semaine dernière, j'expliquais aux auditeurs à Radio-Canada, j'ai dit pensez simplement l'intégration de ChatGPT dans la nouvelle trousse là, de bureautique de Microsoft, là, Office 365.
Ouais.
Quand maintenant vous devez vous asseoir devant votre ordinateur et essentiellement dire à qui vous voulez envoyer une lettre de remerciements et à quel sujet et qu'elle vous l'a fait au complet. Vous avez juste à dire quelle taille vous voulez, là, basé sur d'autres correspondances que vous avez eues. Ben, c'est ça la puissance de l'intelligence artificielle dans votre vie. Alors, imaginez au niveau d'une entreprise et de l'industriel, ça va être formidable pour, ultimement, le propriétaire et les actionnaires, mais les gens qui œuvrent à l'intérieur de ces boîtes-là, il y a des moments difficiles.
Oui, mais même plus que ça. Je lisais un papier dans le Time, là, quelqu'un qui dit il ne faut pas faire une pause sur l'IA, il faut tout arrêter. Alors lui, il était un peu... Bon,
ah non, ben là,
il est très, très loin. Mais il dit, vous ne vous rendez pas compte, demain, une IA pourra envoyer une commande à un laboratoire pour demander de développer une créature vivante à partir de telle et telle protéine et telle molécule. Et puis, hop, du coup, ça lui permettra... C'est un truc de science-fiction, tu vois, ça lui permettra quelque part de sortir de la machine pour prendre corps, quoi.
Mais ton exemple de ChatGPT 6 développé par le 5, c'est tout à fait... Oui, c'est ça le scénario.
Ouais, 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 exactement.
Moi, je pense qu'il faut, que l'humain soit toujours présent dans au carrefour de décisionnel. Voilà.
Oui, mais là, le risque, c'est qu'il ne soit plus, précisément.
Non, mais le risque, d'accord. Mais après, tu peux imposer une réglementation.
Ah, ben, c'est ça.
Ou, je sais pas, moi, un fonctionnement dans une entreprise en disant, ben voilà, il faut qu'il y ait des décisions responsables, humaines, prises, et que ce soit l'humain qui statue.
On est d'accord. L'idée du moratoire, là, de faire une pause, c'est de s'asseoir un peu autour du table et dire, OK, alors, qu'est-ce qu'on veut?
Ouais,
qu'est-ce
mais moi,
qu'on
veut pas? Franchement, ce moratoire, moi, j'y crois pas une seule seconde.
Bah, moi, j'y crois pas non plus, mais au moins, une prise de conscience.
Quand tu vois la concurrence et l'argent qui est en jeu, mais voilà, il y a personne de chez Meta, par exemple, qui a signé ce truc-là. Tu vois?
Ah oui, non. Il y a un ingénieur qui a signé. J'ai bien ri parce que j'ai j'ai fait une recherche à l'intérieur.
Ouais, mais bon, mais voilà, mais c'est pas Mark Zuckerberg
non,
n'est pas là.
Non, je sais, c'est à la blague. Ouais.
Tu vois, il y a pas t'as pas Satya Nadella, t'as personne de chez Google aussi. Oui, tu dois avoir des ingénieurs, mais en fait c'est des points de vue personnels. Ces boîtes-là, ne veulent pas faire une pause de 6 mois, parce que une pause de 6 mois à ce moment crucial de,
oui, mais attends,
de l'histoire de l'intelligence artificielle,
qu'elles veulent,
c'est une catastrophe pour eux.
Ce qu'elles veulent et ce qu'on va les autoriser ou pas à faire, bah, c'est pas la même chose. Je pense que toutes ces boîtes de tech que, comme vous, j'adore et voilà, nous ont fait notre bonheur depuis 20 ans, elles ont aussi fait notre malheur. Je veux dire, les réseaux sociaux, ça a créé le pire du pire. Et donc, échaudés par ces problèmes-là, on ne va pas leur donner un blanc-seing en leur disant, vous savez quoi, continuez à vous amuser, à vous inventer des trucs, et puis on verra à l'arrivée ce que ça donne. Non, c'est maintenant qu'il faut, au contraire, s'asseoir et dire, non, ça vous pouvez le faire, ça vous pouvez pas le faire. Et puis surtout, mettre en place dès le départ les moyens de limiter la casse si besoin. Je ne sais pas de quelle manière, évidemment, mais des garde-fous dès maintenant. C'est ça l'idée, c'est tout, de se saisir de ce problème-là dès maintenant.
Oui, mais bon, quand tu vois le silence et la méconnaissance de ce sujet des institutions, tu te dis que...
Ouais, ça bouge un peu au niveau européen chez nous, là, Thierry Breton et tout ça, ils sont quand même assez sensibilisés, mais,
ouais, mais aux US,
et c'est tellement
parce que
abstrait.
Tout part de là-bas, hein.
Mais c'est tellement abstrait, en plus.
Tout part de là-bas.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ça bouge, ce genre d'initiative ou autre, enfin, on peut en penser ce qu'on veut de cette pétition.
Je pense que les Européens font peur aux Américains, moi je suis pas persuadé, hein. Vraiment,
c'est un autre débat.
Non, mais ils font pas peur, mais ils influencent.
Mais
même.
Oui, nous sommes le phare de la pensée. Oui. Ne l'oublions pas. Bon, les amis, écoutez, en tout cas, on pourrait en parler pendant une heure, mais on a dit qu'on allait évoquer aussi d'autres sujets. Donc voilà, je pense qu'on peut. On referme le dossier IA à ce stade pour l'instant.
Oui. Débranche.
Allez.
Bruno, tu débranches Steve Jobs, s'il te plaît.
Allez, on passe à autre chose. Bon, autre chose, c'est...
Non, mais tu vois, juste, on parlait de ça.
Ah, ça, il va reprendre.
Non. Dans combien d'années, tout ce qu'on vit là, toute cette vie, toutes ces élans de discussion, etc., est-ce qu'un jour, tout ce qu'on vit là pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle ?
Mais moi,
c'est ça la question, finalement.
Ah ben,
non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question.
Non,
je suis pas d'accord.
Non, mais c'est bon son point de vue. Et j'avais eu une discussion récemment avec quelqu'un. Oui, François, la réponse c'est oui. Sauf que est-ce que les gens seront intéressés à entendre parler deux IA ou trois IA entre elles, alors que l'humain peut arriver à générer quelque chose de peut-être plus surprenant? Et je faisais la réflexion avec mes étudiants il y a peut-être un mois en disant c'est sûr que dans 30 ans ou même dans 20 ans, il y aura des quotidiens qui seront 100% avec l'intelligence, qui carbureront à l'intelligence artificielle. Sauf que de l'autre côté, il y aura toujours des chroniqueurs, des billettistes, des blogueurs qui, eux, offriront le regard humain.
Non, mais bien sûr, et de l'émotion.
Les gens paieront là-dessus.
Oui, on est d'accord. Mais moi, je ne dis pas que ça va remplacer. C'est justement pour qu'on évite de se faire remplacer. Aujourd'hui, les artistes sont en train de se faire piller, voire demain remplacer. On va plus s'extasier dans des expositions sur des œuvres créées par des IA que sur des œuvres créées par des humains, si ça continue. C'est un peu ça, le truc.
Pense aux infographes, ces gens-là.
Ouais. C'est mal barré. Les traducteurs. Bon, on est reparti sur l'IA.
Non.
Alors, je remets le jingle.
Ouais, remets le jingle.
Je remets le jingle.
J'adore appuyer sur ce bouton. Hein.
Ouais, j'adore. Hein. Allez, on parle vraiment d'autre chose maintenant. Le dossier TikTok, les amis, quand même, c'est incroyable. Ça devient un sujet, en plus, qui nous préoccupe beaucoup ici en Europe et encore plus aux États-Unis. Récemment, Bruno, je crois que tu as suivi d'assez près l'audition du PDG, du patron de TikTok, hein, devant les représentants américains.
Monsieur Chouchou.
Ouais. Et c'est assez particulier parce que, simplement pour l'histoire, là, je vous rappelle que d'avoir un responsable étranger devant un comité du Capitole, c'est plutôt rare. Le dernier remonte à 2010 et c'était le patron de Toyota parce qu'il y avait des rappels de millions de voitures. Mmh. Alors, c'est pour vous montrer comment c'était un événement aussi en tant que tel.
Oui.
Et donc, d'avoir le grand patron de TikTok qui comparaissait devant les membres du comité de la Chambre du Capitole, alors c'était assez impressionnant. Sauf que le problème, c'était qu'on sentait que l'idée était était pipé dès le départ. Ça a commencé avec la présidente du comité qui a tout simplement laissé tomber assez rapidement entre ses phrases que pour TikTok, les heures étaient comptées et qu'il devait remonter, il devait montrer vraiment patte blanche. Et puis, ça s'est enfilé pendant 5 heures avec des questions qui étaient déjà plantées. Et essentiellement, moi, je trouve que le patron de TikTok s'est bien tiré d'affaire dans le contexte, mais une fois qu'il est sorti de là, TikTok est revenu avec son discours régulier en disant que c'était une comparution qui était pleine de démagogie, ce qu'ont pas dû être les relations de TikTok et la capitale américaine. Mais bon, c'était le jeu était déjà fait, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus une représentation pour que le peuple américain ait l'impression que les élus américains ont leur intention, leur intérêt à cœur.
Ouais, c'était un peu une mascarade ce truc-là quand même. Oui,
tout à fait.
Enfin, voilà, on le traitait de communiste, ce pauvre gars, alors qu'il habite à Singapour. Je pense que plus capitaliste que lui, ça n'existe pas. On l'a traité de, enfin voilà, qu'il était responsable
des Ouïghours. Du Parti communiste.
Voilà, il était responsable du drame des Ouïghours. Enfin,
ça débordait tous les côtés.
Voilà, c'était vraiment le caniveau, quoi.
C'est sûr
il s'en est pris plein la gueule, alors que bon, voilà.
Mark Zuckerberg n'avait pas été épargné, mais là, on sentait qu'il y avait un peu un côté Chine contre États-Unis.
Ça avait rien à voir. Ils étaient encore. Je perds l'expression. Ils étaient encore moins préparés que lors de la comparution de Mark Zuckerberg. Écoutez, quand il y a un des représentants qui demande, mais TikTok, lorsqu'il fonctionne, est-ce qu'il accède au Wi-Fi de la maison?
Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette question?
C'était ben non, mais
vous pouvez répondre.
Parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui donne un lien entre l'application et les serveurs.
Bruno, de là où tu es, c'est-à-dire sur le continent américain, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Ils vont l'interdire, cette appli, aux US?
Ben, ou ça sera interdit, ou sinon ça va être un règlement de dernière minute où ils vont utiliser ce qu'ils appellent le plan Texas, là, d'installer
les serveurs
TikTok
de TikTok
américains. Exactement. Tous les serveurs TikTok en Haut-Texas, dans la propriété d'Oracle. Mais c'est aujourd'hui, là, c'est 50-50 parce qu'il y a autant de pression économique d'un côté qu'il y a de la pression politique de l'autre côté. Alors, j'ai bien hâte de voir de quel côté ça va tomber.
Mais le problème, on l'a un peu ici aussi, parce que TikTok n'est pas franchement en odeur de sainteté, mais c'est moins diabolisé qu'aux États-Unis malgré tout.
Bien sûr, je ne sais pas si tu as suivi les derniers rebondissements, mais là... en fait, on va se retrouver avec les fonctionnaires du gouvernement français qui ont dans l'obligation
de désinstaller l'appli.
Mais de désinstaller toutes les applis récréatives.
Ouais.
C'est-à-dire Netflix.
Incluant Netflix.
Netflix, oui, Twitter, etc.
Ils en profitent, mais ça n'a plus rien à voir avec TikTok, là. C'est un mouvement.
Mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que là, on pointe plus du doigt TikTok. En tout cas, au niveau français, on n'est pas là en train de dire TikTok, c'est les méchants et les autres sont plus gentils. Là, c'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose de plus sain, je trouve.
Oui, c'est vrai. L'absolu. On met tout le monde dans le même panier.
On met tout le monde dans le même panier.
Ne peuvent pas faire les Américains, précisément, puisque...
Bah, ils pourraient.
Et d'ailleurs, quand on regarde l'utilisation des applications d'origine chinoise, TikTok n'est pas dans les premières applications. Hein. Il y a 5 autres applications chinoises qui carburent très bien aux États-Unis.
Ah oui.
Alors là, on pointe TikTok, mais je pense à Temu, T-E-M-U, qui est un marchand genre de Alibaba Express, là, qui fonctionne super bien aux États-Unis. Mais ça, c'est chinois. Alors non, il y a énormément d'enjeux économiques parallèlement à cette bonne conscience politique.
Et puis, il y a un paradoxe, c'est que TikTok, c'est un vrai média qui a une vraie audience, qui permet de toucher tout un public, notamment très jeune. Et il n'y en a pas beaucoup, des canaux qui permettent de parler aux plus jeunes, à toutes les couches de la population. Et du coup, on n'a pas forcément... c'est pas forcément une bonne idée de se priver de ce genre de canal. Moi, ce matin, j'étais à une conférence avec des gens qui s'occupent des personnes qui ont un peu de la difficulté avec le numérique. Ben, TikTok, c'est un moyen aussi de leur faire passer des trucs, des messages, des tutoriels ou simplement de les laisser de les mettre en contact avec l'actualité politique, économique, etc. aussi. Donc, c'est vachement difficile.
Non, mais encore une fois, TikTok en soi est une très bonne appli. Le seul problème, c'est l'abus de TikTok. C'est toujours pareil.
Côté addiction,
quand tu mets un doigt dans TikTok, ton bras, après, après, c'est tout, c'est ton corps, c'est ton buste, c'est tout. Tu peux rester des heures.
Incroyable.
Mais on disait la même chose de Facebook à une époque, puis Instagram aussi. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine application.
Tu sais, alors tu as raison, Bruno, mais juste une petite précision, c'est que TikTok est vachement mieux fait, je trouve.
Mais ils ont poussé la logique.
Facebook et tous ces trucs-là, c'est que c'est de la vidéo, donc ça appelle vraiment. Enfin, tu vois, t'es transporté tout de suite. Et puis avec les algorithmes, mais qui sont redoutables de TikTok.
Pour la recommandation.
Suite, voilà, t'as tapé deux barbecues, bah après t'as des superbes vidéos de barbecue. Il suffit que t'aimes les chats.
T'as même pas besoin de taper,
il le voit.
Tu scrolles et tu vas laisser l'image quelques secondes de plus devant tes yeux.
Et après t'es mort,
Exactement.
Et c'est une hypnose, c'est terrible.
Je fais appel à ta mémoire, François. Souviens-toi à l'époque quand Facebook est sorti, c'était quand même génial. Tu pouvais avoir des nouvelles de tes amis en temps réel alors que ça faisait des mois que tu leur avais pas parlé. On pouvait mettre des photos, on pouvait mettre de la vidéo.
À la limite, Facebook servait à quelque chose.
Mais
ça te permettait de retrouver tes amis que t'avais oublié ou dont tu avais perdu de vue. Là, TikTok, c'est vraiment c'est de l'hypnose en fait.
Mais je sais pas
c'est
si
du divertissement.
Du divertissement.
Le premier à avoir vraiment délibérément essayé d'actionner tous les leviers qui suscitent l'addiction, c'était Instagram en fait. Avec tout était super étudié, la couleur, la forme des boutons, l'ergonomie du truc, etc. Et TikTok, ils ont fait les mêmes règles. Ils sont allés encore plus loin. Les ingénieurs ont encore mieux travaillé. Ils ont poussé la logique encore plus loin pour voir comment tu pouvais capter le temps de cerveau comme ça. Mais après, c'est pas innocent tout ça parce qu'il y a aussi ce qu'on met dans les tuyaux. Et quand on sait que les contenus sur TikTok européens sont assez abêtissants, alors que sur la version chinoise Douyin, ils sont plutôt éducatifs, instructifs, etc., ça pose un vrai problème aussi quand même.
Mais là, vous avez vu qu'aux États-Unis, TikTok introduit des chaînes technologie, science, physique.
Oui, pour se
rattraper. Exactement le même truc qui existe en Chine, mais là, ils vont en faire des versions américaines.
Exactement. Voilà, parce que François me faisait des grands signes. Vite, vite, faut enchaîner, faut passer à autre chose. Alors, allez.
Il a hâte de parler de Meta.
Bon, il est plus long cet épisode de chez Jérôme et François, mais on l'avait prévu puisqu'on a une guest star en invité. Hein, donc,
moi, je pense à tous ces auditeurs qui vont s'endormir en nous écoutant.
Bah écoute,
non, je plaisante.
J'ai vu comment tu.
Non. Et voilà. Donc Meta, bah oui, le métavers.
Alors le métavers, c'est fini ou pas d'après vous?
Alors moi non, je dis que c'est pas fini.
Et toi, Bruno?
Ben non, le métavers, c'est pas fini, mais le métavers de Meta, ça en prend un coup dans la gueule.
Ouais.
Surtout quand tu renommes ton entreprise pour parler de ta stratégie et que finalement tu décides d'aller ailleurs.
Voilà. Alors, si on parle de ça, c'est parce qu'effectivement, il y a quelques jours.
Alors, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Vous me dites quand je peux.
Attends, juste, je campe le décor. Après, tu donnes ton analyse. Mais c'est donc ce message de Zuckerberg qui a dit, bon, écoutez, notre nouvelle priorité, c'est l'intelligence artificielle. Et sous-entendu, le métavers, on le met un peu de côté. Et donc, toi, tu dis, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont abandonné. Parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je sais, qui savent qu'à un moment, toi et moi, notamment, c'était beaucoup excité sur le métavers. On trouvait ça fantastique. Donc, ils attendent que, on se dise qu'on s'était planté, en fait, et que tout cela va.
Mais c'est pas le cas, rassurez-vous.
Va disparaître. Alors, François.
Alors, non. Si on fait le parallèle, on parlait d'IA tout à l'heure. L'IA, c'est un sprint, pour moi. Le métavers, c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est
quel sens de l'image.
Non, mais attendez. Juste un truc.
C'est très bien.
Quand on écoute Mark Zuckerberg, on peut tout lui reprocher à ce gars-là. Mais il a dit dès le départ que le métaverse, ça serait un long chemin, qu'il est en train d'inventer, en tout cas de tracer une voie d'un nouvel Internet, mais qui mettrait des années. Il l'a même dit entre 5 à 10 ans. Okay,
c'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
Il dit ça, le gars. On ne va pas lui reprocher, après, de dire « Bah écoutez, oui, alors, bon, il disait ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y avait pas, le conflit, tous ces conflits géopolitiques. Il n'y a pas eu l'explosion de l'économie numérique. Tout allait bien à l'époque. Donc, il s'est dit « Les gars, vous savez quoi? Je vais dépenser 10 milliards d'euros par an là-dessus parce que c'est mon truc. J'y crois. On y arrivera dans 5 à 10 ans. On verra bien, Inch'Allah. » Ok. Là, tout s'est précipité et parce que voilà, Meta perd de l'argent, il y a moins de pubs qui rentrent, il y a donc je disais les conflits géopolitiques, la concurrence de TikTok
sur
etc.
Instagram.
Apple qui a serré tous les, on va dire tous les robinets de la vie privée avec de la publicité qui est beaucoup moins ciblée, donc qui est moins valorisée et qui rapporte moins d'argent. Mais malgré tout, eh bien Mark Zuckerberg, j'ai l'impression, reste droit dans ses bottes. Il continue à investir beaucoup, beaucoup d'argent. C'est toujours 10 milliards par an dans le métavers. Ouais. Et il poursuit son marathon. Et c'est vrai que quand on est court-termiste, on se dit « Ouais, bah, c'est nul, c'est bidon. Vous avez vu, ça marche pas, ça décolle pas, etc. » Laissons-lui le bénéfice du doute. Laissons-lui 5 ans et on fera un point d'étape dans 5 ans. Mais je pense que c'est trop tôt de dire « Oui, mais non, ça marchera jamais, c'est un truc qui n'existe pas, ça servira à rien. »
Non, là où voilà, il sait peut-être... Alors, moi, je partage assez ton analyse. En plus, le métaverse, c'est un peu devenu une réalité dans les entreprises pour faire de la formation, pour faire de ce qu'on appelle de l'onboarding. Là, je sais pas comment ils disent. Là, quand tu embauches des gens, aujourd'hui, tu as des boîtes qui envoient le starter kit pour le nouvel employé où c'est un PC et un casque de réalité virtuelle, et il va faire tous ses premiers contacts pour être intégré dans l'entreprise en réalité virtuelle dans un métavers. Donc dans l'univers professionnel, c'est une réalité. Ces outils-là, ils commencent à véritablement se développer. Après, effectivement, comme dit Bruno, c'est le côté regardez, on va tous se transformer en dragon et en princesse, et on va aller tous s'amuser dans un univers hyper fun dont apparemment personne ne veut, en tout cas qui n'intéresse pas grand monde, le métavers de Mark Zuckerberg.
Déjà, quelle est la diffusion, la définition de ce mot, c'est compliqué. Et puis juste quelques petits indices. Je peux vous dire qu'Apple, dans 6 mois, sera là-dedans. Même pas, hein, on le sait. Hein,
mais ça fait 3 ans qu'on le dit, ça.
Ouais. Non, mais enfin, je pense que là, ça va dégainer. Hein. Je pense que là, on va y aller.
Oui, Apple. On dit que ça devrait être cette année, quand même, le casque.
Voilà, à l'occasion de la WWDC, peut-être qu'on se plante totalement. Et là, après, bon, ben voilà, hein, je ferai mon mea culpa, mais je sens que Apple va y aller. Samsung va sortir des trucs d'ici la fin de l'année, dans le métavers. Donc, on voit que malgré tout, il y a une espèce de comment dirais-je de
lame de mouvement de fond.
Oui, de mouvement et en tout cas on va dans le même sens, d'accord, mais technologiquement ce n'est pas prêt, on verra bien. Franchement, laissons un peu de temps à la stratégie de Mark Zuckerberg et aux autres, et surtout attendons qu'il y ait une progression technologique. On le voit d'année en année.
On voit qu'il y a des blocages technologiques, effectivement.
Des blocages technologiques, et puis voilà, il y a la miniaturisation qui arrive, etc.
Bruno, qu'est-ce que tu en penses?
Non, ben moi je reviens sur l'annonce de ce, moi j'appelle ça un virage là quand même de la part de la direction de Meta, et ça me faisait grandement penser, et je suis curieux de vous entendre là-dessus, ça me faisait beaucoup penser à la note au personnel de 1995 de Bill Gates quand il a vu l'Internet et a dit qu'à partir de ce moment-là, tous les efforts de l'entreprise allaient être dirigés vers des produits qui allaient sur Internet. C'est pas de ce niveau-là, on s'entend, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et puis, bon, il faut être quand même franc, Meta a investi beaucoup depuis longtemps dans le développement de l'intelligence artificielle. Vous le savez à Paris, on le sait à Montréal. Mais ce recadrage important, moi, j'avoue que ça m'a rappelé l'époque de Bill Gates en 1995.
Oui, changement de cap. Après, bon, c'est marrant, ces boîtes, elles fonctionne vachement comme ça, avec des grands engagements à droite et puis un coup de barre à gauche après, etc. Ça contribue
non, mais
au storytelling.
Après, il y a tout le bullshit qui a été raconté là-dedans. Je veux dire, il y a des agences de com et de pub qui se sont engouffrées.
Ah, il y avait du métavers partout. Hein.
Et qui se sont gavés en vendant des trucs qui n'existaient pas. et plein de boîtes avec plein d'argent dépensées des sous qu'ils ne récupéreront jamais. Mais ça, bon, bah, voilà.
C'est de la com.
C'est de la com. Et moi, j'ai été le premier à foncer dedans et à tomber dans le panneau. Mais bon, bah, voilà, c'est comme ça. Je voulais juste dire un truc, c'est qu'on parle beaucoup donc d'Apple, de Meta, de Samsung. Il y a Pico aussi qui fait son masque de réalité virtuelle. Moi, j'ai rencontré, et Jérôme, tu les connais aussi, une boîte, une start-up française qui s'appelle Lynx.
Oui.
Et avec un jeune fondateur et PDG qui est passionnant et qui, là, sort ses jours suisses son masque de réalité mixte.
Ouais, qui est vachement bien, d'ailleurs.
Qui est vachement bien.
Il est léger, il est hybride.
Il est conçu
mixte et réalité virtuelle.
Voilà, et je me dis, pourquoi on ne parle pas C'est vrai que franchement, je trouve que des fois, ça m'énerve cette histoire-là. C'est-à-dire que d'un coup, on déroule un tapis rouge à tous ces acteurs américains, mais on ne regarde pas au bout de notre nez. Bah, nous, on l'a reçu il y a un an. Voilà, tu l'avais reçu d'ailleurs dans Tech Hebdo. Moi, je n'avais été pas là et c'était très intéressant. Mmh. Là, il revient, son produit est sorti. Je dis bon, d'accord, ok, mais vous allez communiquer. Non, je ne sais pas trop. On attend qu'Apple sorte le sien parce que ça va nous donner une... Et voilà. Et alors, ils ont un bon produit, mais nous, en France, on ne sait pas. On crée des trucs, mais on ne sait pas les vendre.
Oui, mais c'est aussi parce qu'eux, ils visent le marché professionnel, la médecine, la formation dans les entreprises, etc. Et quelque part, ils n'ont pas les moyens de faire autant de com qu'un Meta séduire le grand public.
Comme il est ingénieux, ce masque.
Ils n'ont pas forcément besoin. Il est super.
Il est super ingénieux. Essayé,
il est vachement bien.
Il y a une espèce de
visière.
C'est-à-dire que quand tu ne veux pas t'en servir, tu as donc un support sur la tête, mais dès que tu ne veux pas t'en servir, tu remontes la visière. Mmh. Et dès que tu la baisses, hop, tu te retrouves dans ce monde, en fait, dans les fonction de réalité mixte, et c'est impressionnant.
Il est presque mieux qu'HoloLens. Il est vraiment bien.
Et tu sais qu'il me disait que le masque d'Apple, parce qu'ils sont au courant, hein, tous ces gens-là sont au courant de tout ce qui se passe chez les concurrents, qu'Apple est prêt à dégainer et qui ressemblera beaucoup au leur, et Samsung aussi s'apprête à sortir un masque qui ressemblera au leur. Donc, et ça, c'est français. Et on ne parle pas d'eux. C'est dommage.
Ben voilà, on est là, nous, pour en parler.
Ensuite, tu me permets d'être chauvin un instant.
Ouais, très brièvement, Bruno. Parce que
tu parles d'Apple et de son arrivée dans la VR. Il faut quand même dire qu'à l'époque, je pense que c'est 2017, Apple avait acheté une entreprise québécoise qui était VR Vana. Ils avaient payé ça 30 millions à l'époque. Et ils étaient. Moi, je me souviens d'eux, parce que bien qu'ils soient de Montréal, je les avais croisés au CES dans un couloir. Ouais. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un kiosque. Et il y a quelqu'un de chez Apple qui les a rencontrés dans le couloir. Il dit, ça nous intéresse. Mm-hmm. Ils ont acheté leur technologie. Évidemment, depuis, ils ont raffiné. Là. Mais je parlais récemment avec le patron de cette boîte-là. Ils ont payé ça 30 millions. Là. C'était rien. Et donc, c'est ça. Puis, avec le temps, ce qu'on voit, c'est que l'appareil s'est raffiné, selon ses dires, mais la technologie reste sensiblement la même.
Bon, les amis, on touche au but. En tout cas, on touche à la fin. On a une petite tradition, Bruno, dans ce podcast. C'est qu'on termine par une espèce de coup de cœur réciproque, François et moi. Et donc, cette fois, on va t'inclure. Bon, allez, François, on commence par toi.
La nouvelle enceinte Sonos, je vais faire très vite.
Ouais.
Sonos a sorti deux enceintes, la Era 100 et la Era 300, qui est une enceinte très drôle, qui ressemble à un Diabolo. C'est une enceinte dont les haut-parleurs ne sont pas, si tu veux...
Ouais, elle a une drôle de forme. Hein.
Ils sont sur le côté. Donc, tu as deux enceintes sur le côté, avec plein de tweeters, de boomers, des basses réflexes, etc. etc. C'est pas une grosse enceinte. C'est un truc qui est raisonnable et que tu peux poser sur une étagère. Mais alors, qu'est-ce que ça envoie du bois ? Ça envoie du bois.
Ah ouais ?
Ouais. Je trouve que l'enceinte est toujours très bien finie. Le son est vraiment excellent. C'est la première enceinte Sonos stéréo. Tu sais qu'avec Jérôme Bruno, on adore la stéréo et on regrettait que, il fallait toujours deux enceintes pour avoir la stéréo. Ça, c'est une seule enceinte qui est stéréo. Et ils ont réussi, grâce à leurs algos, malgré le fait qu'il y ait deux enceintes à proximité, à recréer un son stéréo. Et la nouveauté aussi de cette enceinte, c'est qu'elle est compatible Dolby Atmos. Mais au début, je me suis dit, Dolby Atmos, c'est encore de la gnognotte, etc., etc. Et donc, il faut être abonné soit à Apple Music, soit à Amazon Music, tu vois. Tu choisis.
Audible maintenant, ouais.
Voilà. Tu prends... mais alors, je ne sais pas si...
Audible vient d'annoncer là, qu'ils ont...
Ils sont en Dolby Atmos aussi ? D'accord.
Oui, monsieur, ça vient de sortir.
Voilà. Donc, tu as un abonnement, par exemple, Apple Music. Tu choisis ton fichier Dolby Atmos. Et alors là, il y a une espèce de, comment dirais-je, de spatialisation du son. C'est impressionnant, vraiment. D'un coup, on a un son qui remplit la pièce et qui est vraiment impressionnant. Vraiment à tester. Alors, c'est fastidieux parce que pour avoir du Dolby Atmos, il faut passer par l'appli Sonos, il faut choisir le bon fichier. C'est pas toujours très clair, etc.
C'est pas ultra plug and play. Quoi.
Non, mais bon, après, c'est la première. Tu sais, il y a plein de mises à jour chez Sonos. Ils vont régler ce problème-là.
Non, mais ça a l'air bien. On t'écoutait béatement. Tu nous donnes envie. Là.
Dernière chose, elle est aussi Bluetooth. Ah. C'est une enceinte de salon. Tu sais que Sonos avait toujours un peu, pas trop le Bluetooth, etc. Là maintenant, elle est Wi-Fi, mais elle est aussi Bluetooth.
Tu peux envoyer directement du son depuis.
Mais pas du Dolby Atmos. C'est ça le problème.
Ah bah c'est oui,
Dolby
Atmos, c'est normal.
Parce que en Wi-Fi. Et dernière petite chose sur Sonos. Après, j'arrête là. Je suis ravi parce que ils ont passé un accord avec Deezer il y a quelques semaines de cela, et Deezer va devenir le fournisseur officiel de toutes les radios Sonos dans le monde entier, et c'est plutôt cool. Cocorico, voilà, Deezer, c'est une belle boîte française.
Deezer, boîte française.
Va donc fournir toutes les radios de Sonos, et ça, c'est plutôt cool. Voilà.
Et le nom du modèle encore ?
C'est la Era 300. En France, c'est la 499 €, hein, quand même.
Ah ouais.
Et si tu en as deux,
oui,
tu peux les couper en stéréo.
Ça fait 1 000 €.
Et tu peux les couper en ça fait 1 000 € et tu peux les couper en stéréo.
Et c'était le prix des Play 5, hein, déjà, 500 €, je crois.
Oui, elles sont plus petites, mais franchement, au niveau son, c'est équivalent au Play 5.
Bon, j'irai écouter ça chez toi.
Ce week-end.
Voilà, exactement. Bon, moi, mon coup de cœur, c'est pas un produit tech, c'est une start-up. C'est une start-up, mais qui est pas un bébé. C'est une boîte française, enfin non, c'est une boîte américaine créée par des Français qui s'appelle Hugging Face. Et je les ai interviewés pour mon podcast Monde Numérique. C'est de l'IA. Donc on revient au sujet qu'on traitait en début d'émission, et c'est une boîte qui a développé un LLM, donc un modèle, un grand modèle de langue, là, de langage, donc
l'intelligence conversationnelle.
Non, alors elle n'est pas conversationnelle. C'est pas l'équivalent de ChatGPT, mais c'est l'équivalent de GPT, du moteur, du vraiment de l'outil qui est derrière, et c'est à peu près au niveau de GPT-3, et qui a une particularité, c'est que, et c'est là où on retrouve évidemment la patte française, on va dire, ou européenne, c'est qu'ils se veulent beaucoup plus ouverts, ce que OpenAI n'est plus, pour qu'on puisse vraiment aller mettre le nez dans le moteur, sous le capot, pour que, eh bien, on arrive à garder, on reprend la discussion du début, un peu la maîtrise au niveau des données. Il y a un aspect, tu vois, éthique, etc. L'outil s'appelle Bloom. Il est utilisé par plein d'entreprises, concrètement, des grands comptes aujourd'hui, des universités également. Et le truc fonctionne plutôt pas mal. Et pour la petite histoire, c'est rigolo, ils ont entraîné leur modèle d'intelligence artificielle sur le plus gros ordinateur français, qui est le supercalculateur Jean Zay, qui se trouve à Saclay. Et ils ont même contribué à faire grossir encore plus Jean Zay. Donc, puisqu'ils avaient leur projet, eh bien, l'université, enfin, c'est l'État, en fait, hein, c'est de l'argent public, a accepté de racheter encore plein des centaines et des milliers de cartes graphiques pour rendre la bête encore plus puissante, afin d'entraîner le modèle Bloom, et qui pourrait vraiment servir à plein de trucs en Europe, mais également ailleurs. Voilà, Hugging Face.
Et pour la petite histoire, Jérôme, je te fais un clin d'œil. Une fois que les gens auront écouté l'entrevue sur Monde Numérique, ils pourront aller faire un tour sur mon carnet, parce qu'en en mars 2017, donc on est presque pile poil, là, je parlais avec un des fondateurs. Ils sont
oui,
trois,
tu
là,
les connaissais,
Hugging Face. À New York, oui. Ouais. Et eux, à l'époque, Hugging Face, ils avaient lancé l'équivalent d'un Tamagotchi.
Ah ouais?
Et c'était leur premier produit.
Ah ouais.
Et moi, ça m'avait amusé parce que c'était un Tamagotchi nourri à l'intelligence artificielle. Et je me demandais ce que ça pouvait faire. Alors, j'ai fait une entrevue avec eux en direct de New York.
C'est
amusant.
Non, c'est une belle boîte, c'est intéressant. Voilà.
On les reçoit d'ailleurs. Je les reçois dans Tech & Co. Hugging Face à l'occasion de l'AWS Summit la semaine prochaine.
Ah bah très bien. Tu vas te régaler. Eh bien, Bruno, notre invité vedette, quel est donc, toi, ton coup de cœur pour cette émission?
Ben, mon coup de cœur, je pense que je le partage avec plein de gens qui écoutent présentement. C'est d'un jour faire partie de cette petite visite chez vous, chez Jérôme, chez François. J'ai réalisé ce rêve. Je pense que je peux pas avoir meilleur coup de cœur. Merci beaucoup, monsieur.
Ah, c'est adorable.
Il est très fort, ce Bruno.
Il est
vraiment
fort. C'est
mais en plus, c'est sincère. C'est ça qui est fort.
Ouais, génial.
On t'adore, on t'embrasse, des bisous qui traversent l'Atlantique. Ouais,
on pourrait même s'arrêter là parce que.
Ça fait plus de 20 ans que je vous écoute.
Mais bien sûr. Voilà, c'est avec tout cet amour, tous ces mots gentils que nous nous séparons, que nous nous quittons.
Un torrent d'amour.
Mais c'est beau.
Merci.
Bon, Bruno Guglielminetti de Moncarnet, on était ravis de t'avoir avec nous cette semaine, ce mois-ci, chez Jérôme et François.
Et mon cher Jérôme, on se retrouve très vite.
Oui, on se retrouve
devant les caméras de la chaîne Techno. La chaîne Techno.
À chaque fois, il me la sort, la chaîne Techno.
La chaîne Tech & Co.
Oui.
dans mon émission aussi.
C'est mignon.
Et puis mon numérique, etc., etc. Voilà, on vous fait de gros bisous.
Voilà, et vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. Oui. Désolé pour notre, notre infidélité, parce qu'on n'est pas très régulier pour ce podcast. Vous l'avez compris, c'est un peu, voilà, c'est des coups de cœur quand on a le temps, quand on
mais peut. Mais je vous confirme que c'est une belle surprise quand vous nous livrez.
C'est très gentil. Merci. On prend beaucoup de plaisir à être avec vous, évidemment, à chaque fois.
Salut.
À bientôt, Bruno. Salut.
Bye.